dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier. Il y a 75 ans, nous étions en 1944. Il y a 75 ans, le 6 mai, dans le sud d'Aveyron, des Français se battent contre d'autres Français. C'est au Bouscalou, tout près de Mounès-Proincou, que six jeunes maquisards voient déferler sur eux, au petit matin, près d'une centaine de gardes mobiles vichistes, des Français venus le matin même de Béziers. Ces six jeunes avaient 21 ans. La plupart d'entre eux venaient de la Tour du Pin, en Isère. Ils avaient décidé, dès 1943, de prendre le maquis, non pas pour se cacher et attendre la libération, mais pour se battre contre le gouvernement de Pétain, contre les nazis venus d'Allemagne et pour la liberté. La presse de l'époque les qualifiait de terroristes. Ils faisaient des attentats, ils exécutaient des miliciens. Ils avaient pour prénom Maurice, René, Max, Jean, François et Albert. C'est justement le cousin d'Albert, Hervé Mollard, qui nous conte aujourd'hui l'histoire tragique des jeunes du maquis du Bouscalou.
Les ennemis étaient chez moi, ils m'ont dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage, j'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis.
Mai 1944, journée bien triste. Le matin à 8h30, nous avons été attaqués par plus de 100 salauds, Boche, miliciens, GMR. Armés d'une façon formidable, et si à l'heure actuelle j'ai l'honneur d'écrire ces lignes, je le dois à la grâce de Dieu. Je suis le seul rescapé de cette ignoble action. Ils étaient armés de FM, fusils de chasse, chevrotines, mousquetons, mitraillettes. Nous étions 7. Après la surprise, nous avons dévalé à une allure terrible la dure pente qui nous mène au ruisseau. Aussitôt, les armes automatiques rentrent en action contre nous. quatre copains remontent le ruisseau en se cachant dans les arbres. François et moi-même cherchons notre salut en remontant l'autre pente, tout en profitant des arbres, mais très clairsemés. Aussitôt, nous sommes littéralement entourés de balles. Plusieurs FM, mousquetons, mitraillettes sont braqués sur nous et nous poursuivent sans arrêt. Nous parvenons tous deux à grimper assez haut sans être touchés. Mais soudain, François pousse un cri. Il est touché au bras et me crie « Une balle explosive !» Nous sommes chacun derrière un arbre et la pluie de balles continue, tout saute autour de moi. J'entends les balles qui pénètrent dans l'arbre derrière lequel je me suis aplati. Je décide de continuer à monter car sous peu nous serons encerclés. Je pars, je continue à être entouré de balles qui coupent les branches ou frappent le sol. Pourquoi ne suis-je pas touché? Je m'attends à m'écrouler d'une seconde à l'autre. Je monte toujours sac au dos, l'arme à la main. Je suis toujours poursuivi. J'entends que l'on m'appelle. Rends-toi, rends-toi! Les tirs continuent. Ils se figurent que nous sommes tous des lâches comme eux. Après une marche éreintante, j'arrive au sommet de la crête et, je le crois, je tiens mon salut. Je me replie dans une ferme et de là, avec de braves paysans, nous nous remettons en route pour connaître le désastre.
Le maquis de Bouscaloup.
Avec Hervé Mollard.
J'espère que cette guerre ne va pas durer.
Il faut se battre pour qu'elle se termine un jour.
Bonjour Hervé Mollard.
Bonjour Joseph.
D'où sont tirées ces lignes et de qui sont-elles?
Ces lignes ont été écrites par mon cousin Albert Thevenon, qui a rejoint la résistance sud-aveyronnaise et qui a donc écrit ces lignes dans un carnet de bord qu'il a tenu au jour le jour depuis son entrée dans l'action en mars 1943.
Ton cousin était de l'Isère, comme toi?
Mon cousin est originaire de la Tour du Pin. Et après l'instauration du service du travail obligatoire, le STO, le 16 février 1943, il a décidé de ne pas partir pour l'Allemagne et a donc décidé de s'engager dans la résistance. Et c'est par une connaissance d'un de ses copains, les parents Gagnoux de la Tour du Pin, qu'il a rejoint une filière de réfractaires qui l'ont donc amené en Aveyron dès mars 1943.
Il est venu tout seul ou ils sont partis à plusieurs?
Alors il était accompagné de Max Gagnoux et Jean Ferrand. Donc tous les trois ont rejoint l'Aveyron via Lyon, la vallée du Rhône, etc., à la fois par le train et le bus.
Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis. Contre nazis et miliciens, sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance.
Alors ils vont rejoindre, ils vont être pris en charge immédiatement en utilisant un mot de passe pour rejoindre le camp du Mona, qui est au sud-est de Millau.
Et de là, ils vont rentrer dans un maquis. Ils vont être intégrés aussitôt dans un maquis?
Pas tout à fait. Ils vont rester là une semaine ou deux en attente que de les placer dans une structure de résistance. Voilà.
Et cette structure de résistance, c'était les FTP, c'était l'armée secrète,
C'était l'AS, l'armée secrète, dont le chef était M. Léon Fréchet, un homme de grande valeur, polytechnicien, directeur des caves de Roquefort, et donc qui était le responsable départemental de l'AS.
Il y avait vraiment une volonté chez ce groupe de jeunes d'être actif et pas uniquement de se cacher.
Voilà, oui, parce que bon nombre de jeunes ont cherché uniquement à se cacher et attendre que ça se passe. Ce qui n'a pas été le cas d'Albert et de ses deux compagnons. Non seulement il ne souhaitait pas rejoindre le STO, mais surtout il voulait combattre à la fois le pouvoir en place, Vichy, etc., et l'occupant, les Allemands, donc.
Et ils voulaient combattre dès début 43. Ils n'ont rien à voir avec ces résistants de la dernière heure qui sont arrivés au mois de juin 44 à engorger les maquis existants.
Pas du tout. Leur souhait était de passer à l'action le plus vite possible. Malheureusement, entre le souhait et la réalité, c'était pas du tout la même chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de structure de maquis, enfin, de résistance, d'une part, et d'autre part, ils ne disposaient pas d'armes, d'explosifs, enfin, d'éléments qui leur permettaient à la fois de se défendre et d'attaquer l'ennemi, quoi.
Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester plusieurs mois sans rien faire, en attendant?
Eh bien, ça va être un peu l'errance. Pendant pratiquement jusqu'à la fin 1943, pas d'armes, donc ils sont traqués. Et ça va être des incessants parcours dans le sud Aveyron, à la fois dans des grottes, dans des cabanes, dans divers endroits où ils pouvaient se cacher, voilà.
Mais Albert était quelqu'un de sportif et donc il avait envie de s'entretenir pour le grand jour.
Voilà. Albert était quelqu'un qui avait un physique assez impressionnant, qu'il avait toujours entretenu. C'était un formidable gymnaste. Et lui, ce qui comptait, c'était se maintenir dans cette forme physique. Et donc, il était notamment adepte de l'hébertisme. L'hébertisme vient du nom de Hébert, qui est quelqu'un qui a élaboré une méthode de culture physique. Voilà.
Alors, quelque chose d'étonnant, tu nous en as lu quelques lignes, mais Albert tenait au jour le jour, quasiment, un carnet où il notait tout ce qui se passait, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il pensait.
Alors ça, c'est une pièce unique et extraordinaire, parce que, bon, c'est difficile d'en parler sans le voir, bien entendu, mais c'est quelque chose, ce carnet qu'il a écrit au quotidien, écrit sur un petit carnet d'écolier au stylo, à l'encre, c'était à l'encre bleue, et qu'il a, selon une méthode qu'il a apprise quand il a fait Jeunesse et Montagne en 1942, où c'est du style la date, deux points soulignés, et il commence à rédiger son quotidien en permanence, quoi. Donc, ce dont on peut s'étonner, c'est qu'il ait pu écrire ce carnet dans des conditions de vie extrêmes, que ce soit dans une cabane aux quatre courants d'air, dans une grotte où l'eau n'arrête pas de tomber, plein d'humidité. Enfin bon, voilà. Donc, comment a-t-il pu écrire ce carnet? C'est une question qui reste posée, et que malheureusement, lui seul pourrait répondre aujourd'hui.
Et en lisant ce carnet, on voit que Albert et ses deux copains repartent à la Tour du Pin au mois de décembre, mais qu'ils en reviennent en janvier pour tenir une promesse.
Eh oui. L'année 43 est une année donc où il n'y a pas d'action. Et compte tenu des conditions hivernales qui sont terribles cet hiver-là, il est décidé qu'ils vont rentrer à la Tour du Pin, donc une sacrée dose de confiance entre leur chef et eux-mêmes, et en promettant de revenir après les fêtes de fin d'année 43, ce dont ils vont tenir.
C'est incroyable. Tu peux nous rappeler leur âge à ce moment-là?
Eh bien, ils sont tous les trois nés en 1922. Ils ont donc, en 1943, 21 ans. Et c'est quand même encore un âge jeune pour avoir une telle maturité, une telle soif de défendre son pays. C'est quand même quelque chose d'important.
Et ça, les chefs de la résistance l'ont compris, parce que dès janvier 1944, ils vont les faire passer à l'action.
Eh bien, quand ils reviennent tout de suite, début janvier 1944, les choses ont foncièrement changé au sein de la résistance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des parachutages d'armes. Et là, ils sont armés. Donc pour eux, c'est déjà un plus extraordinaire, puisqu'ils vont pouvoir combattre, ce qu'ils n'ont pas pu faire en 1943. Et ils vont donc revenir, et les actions ne vont pas tarder.
Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que je crois qu'ils reviennent à 4. Ils partent à 3 en décembre 1943, ils reviennent à 4 turipinois.
Tu as raison de le souligner. En fait, sur les 3, il n'y a que Albert et Jeannot qui vont retourner à Tondupin. Max reste en Aveyron. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un moyen de pression, peut-être ? C'est possible. Mais Jeannot et Albert vont revenir en Aveyron accompagnés d'un quatrième larron, qui est Maurice Jouffray. Alors, à noter qu'ils avaient tous plus ou moins un surnom. Maurice Jouffray va se faire appeler Pompier. Albert, lui, va prendre le nom de Michel, avec une bonne raison de s'appeler Michel. Jean Ferrand va s'appeler Jeannot, et Max, lui, il va garder son prénom de Max. Voilà.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Le maquis de Bouscalou.
Avec Hervé Mollard.
J'espère que cette guerre ne va pas durer.
Il faut se battre pour qu'elle se termine un jour.
Et quand tu dis qu'ils vont rentrer dans l'action, ça va être quoi l'action ? Que vont leur confier les responsables ?
Eh bien, au début, il faut aussi qu'ils apprennent à se servir de ces armes, de ces explosifs. Donc on va, les initier à l'exercice de manipulation, d'utilisation de ces armes. Et dans le même temps, la résistance va faire venir en Aveyron et certainement dans toute la France des militaires qui étaient venus de Londres pour justement leur apprendre à se servir de ces matériels.
Qu'est-ce qu'ils vont faire alors une fois qu'ils sont initiés à l'usage des armes ?
Eh bien, les principales actions consisteront d'une part à commettre des sabotages, leur faire sauter des pylônes de lignes à haute tension, saboter des dépôts de locomotives, mais aussi, et ça je pense que c'était une grande fierté pour eux, c'est de commettre des attentats, employons le mot, des exécutions de miliciens du sud d'Aveyron.
Chose qu'ils ont faite.
Et oui, c'est chose qu'ils ont faite. Ils vont donc exécuter dans sa pharmacie le pharmacien Laurence, qui était le chef de la milice à Saint-Afrique, et également l'électricien Cabanel. Ils vont d'abord l'enlever, ils vont l'interroger et ils vont l'exécuter dans une grotte en Aveyron. Donc.
N'oubliez jamais ça. On tue des hommes, mais on est du côté de la vie.
Il ne peut rien nous arriver ici. C'est le pays des droits de l'homme.
Je suis devenu un vrai combattant. On ne peut plus reculer. On ne peut plus revenir en arrière.
Pourquoi on va appeler ce maquis, ce groupe de jeunes, le maquis du Bouscalou ?
Alors, avant qu'il s'appelle le maquis du Bouscalou, c'est parce que ils ont quand même, en 1944, bougé beaucoup. Et comme ils avaient des armes, ils étaient donc suivis et chassés par à la fois les GMR, la milice et les Allemands, bien sûr. Ils ont beaucoup baroudé et Albert et ses compagnons ont fait partie de maquis avec des noms différents au fur et à mesure de leur parcours. Et le dernier maquis dont ils ont fait partie, ça a été le maquis donc de Bouscalousse. Pourquoi Bouscalousse ? Tout simplement parce que leur maquis était implanté dans une vieille ferme du lieu-dit Bouscalousse. Cette ferme était tenue par une dame, Madame Gourpe, et son fils. Et la journée, ils s'entretenaient physiquement, ils aidaient la ferme aux travaux agricoles, et ils logeaient la nuit dans des jasses. Au départ, c'était la jasse de la Devèze, qui était une jasse sur un coteau derrière des arbres. Et puis, au fur et à mesure, ils ont changé d'optique. Ils ont préféré aller dans une jasse près du Moulineau, c'est le ruisseau de l'Albespi, au fond d'un ravin, qu'ils rejoignaient donc le soir pour passer la nuit.
Les attentats se multiplient.
Les terroristes, il faut les terroriser.
Dites au général Aubert qu'il ne sera pas déçu par la police française.
Police !
C'est l'étroite collaboration de notre police avec l'armée allemande qui est notre principal atout.
Le 6 mai 1944, ce ne sont pas des Allemands, mais ce sont des soldats français, des miliciens, des soldats de Pétain, des GMR, des gardes mobiles de réserve qui vont essayer de les arrêter.
Ce sont les GMR, gardes mobiles de réserve du pouvoir en place, Pétain. Ce sont donc des Français qui sont venus attaquer des maquisards. Et là, ça a été terrible, comme c'est résumé par Albert dans son carnet. Puisque, disons, 120 contre 6, c'est très, très difficile de pouvoir lutter. Voilà. C'est pour ça que sur les 6 maquisards, un seul, dans l'attaque, en a échappé, c'est Albert. Les autres ont été arrêtés, tous été déportés, notamment à Buchenwald. Et les deux autres qui en ont échappé, ben, ils ont échappé parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain. Max était allé chercher du lait. Ils allaient chacun à leur tour chercher du lait le matin. Ce jour-là, c'était Max. Et René Delaire, dit Marcel, lui n'était pas là puisque malade et il était soigné dans une ferme ailleurs. Voilà. Donc sur 6, seul Albert s'en est sorti. Ils ont été tellement surpris qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre la bouche. Quand ils sont arrivés à la hauteur du chemin, eh ben, il y avait des GMR de partout. C'était trop tard. Donc ils ont dévalé à nouveau la pente. Certains nombres sont remontés le ruisseau, Moulineau. Et Albert et François Moron ont pris l'option de grimper dans le coteau en face. Et c'est là qu'ils se sont fait trahir. Et les autres qui étaient dans le ruisseau, ben, ils ont été fait prisonnier. Voilà.
Il y en a un qui est redescendu, non? C'est pas ça?
C'est Jean Ferrand, puis, qui est allé en aval, et les autres en amont. Mais ils ont tous été pris de la même façon. Voilà. Et puis les deux autres qui ont échappé, ben, c'était Max, qui était allé chercher le lait. C'était de coutume qu'il y en ait un tous les matins. Et René Delaire, parce qu'il était malade, il était chez d'autres paysans. Voilà. Comme quoi, ça ne tient pas grand-chose. Allez.
Il y en a eu deux qui faisaient pas partie du maquis, mais qui étaient,
oui,
qui étaient là.
C'était Ortega Barnabé et Frangi Ricardo, dont la sœur était à la cérémonie ce matin. Ils étaient venus en renfort pour se remémorer que le 3 mai, donc 3 jours avant, le chef départemental de la résistance, Léon Fréchet, qui était directeur de l'école de renfort, a été arrêté. Et l'objectif, c'était de renforcer le maquis du Bouscalous pour aller libérer Fréchet à Gestapo. Je crois que c'était un projet fort, mais est-ce qu'il était réalisable, ça, c'est autre chose.
Et dans son carnet, dans les notes du 5 mai, justement, il évoque ça, Albert. Il met
le chef suprême. Ouais.
Et on se prépare. Et ça finit, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, là. On se prépare.
Ouais. À 6.
Hein?
À 6 ou
ah, mais c'était...
Oui, non, en fait, ils étaient 9. Parce qu'en plus, il y avait Roger Soulier qui était aussi arrivé entre-temps. Mais enfin, 9. Aller attaquer le siège de la Gestapo pour libérer Fréchet.
C'est quand même bien surveillé.
Un peu du utopique, quelque part.
Freedom soon will come. man will come from the shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Dans un grenier, où la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Le maquis de Bouscalou
avec Hervé Mollard.
J'espère que cette guerre ne va pas durer.
Il faut se battre pour qu'elle se termine un jour.
Alors après, bon ben, c'est un peu la débandade, bien entendu. La résistance met en place ce qu'ils appellent des maquis mobilisateurs. En l'occurrence, Albert, Max et René Deler vont aller rejoindre le maquis Paul Klee, qui est un maquis mobilisateur. L'organisation de la résistance qui avant consistait à mettre en place des petits maquis, disons de 6 à 10 personnes, maintenant décide de créer au contraire des maquis de plus grande importance. On parle de trentaine, de maquis par trentaine. Et c'est comme ça que le maquis Paul Klee est né. Sauf que Max, lui, a bien rejoint le maquis Paul Klee, mais Marcel et Albert vont, eux, rejoindre l'état-major, la direction de la résistance aveyronnaise.
Les dernières lignes qu'on peut lire d'Albert dans son carnet, je crois qu'elles datent du 11 mai. Pourquoi il n'y a plus rien après ?
Eh bien, il n'y a plus rien parce que je pense qu'il s'est rendu compte de la dangerosité que ce carnet représentait pour lui et ses copains. Donc, le 11 mai, donc quelques jours après cette attaque du 6 mai, il décide de confier son carnet à des paysans, la famille Rouquette, pour ne pas les nommer, avec qui ils avaient sympathisé, bien sûr. Et ce carnet va être caché dans un trou de blaireau par la famille Rouquette. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'écrit plus son carnet. Et il est donc affecté, on dit même, enfin, le titre qu'on lui a attribué, c'est qu'il était devenu le chef du secrétariat des FFI de l'Aveyron. Au mois de juin, le 15 juin, voilà, 1944, se tient une importante réunion à l'hôtel Montrosier, à Saint-Victor-et-Melvieux, qui était devenu le PC de la résistance. Ils sont attaqués le 15 juin par les Allemands. Et Albert et René Deler sont faits prisonniers, ainsi que Jean Birban, qui avait pris la direction de la résistance parce que M. Fréchet avait été arrêté le 3 mai 1944. Donc, ils sont arrêtés tous les trois. Ils sont interrogés, vraisemblablement torturés. On ne peut pas l'affirmer, mais on peut le penser, et enfermé à la prison Burlou de Rodez. Et ce, jusqu'au 17 août.
Lass es in die Ketten abnehmen.
Jawohl, Obersturmführer.
Ketten abnehmen!
Le 17 août, la veille du départ des Allemands de Rodez, et bien, sur l'ordre, on peut le penser, de la direction allemande de Montpellier, ils vont emmener les 30 prisonniers de la prison Burlou, dont Albert et René, sur le champ de tir de Saint-Radegonde, qui est une commune au sud-est de Rodez.
Les soldats, sans ménagement, les font descendre du camion.
Erste Reihe, links, um.
Les prisonniers se retrouvent sur un vaste terrain plat. Au loin, ils peuvent apercevoir la colline de Rodez, surmontée de sa cathédrale. Et en se retournant, ils voient un grand monticule de terre, c'est la butte du champ de tir. Ça y est, ils ont compris. Ils savent qu'ils vont être fusillés. Les soldats les poussent, sans ménagement. Ils les obligent à se mettre dos à la butte, juste devant une tranchée. Ils doivent se tenir droits. Face à eux, à 10 mètres, ont pris place une trentaine de soldats allemands, l'arme aux pieds. René et Albert se regardent une dernière fois. Ils se tiennent par la main, comme deux frères. Pas un mot, mais dans leur regard, ils se comprennent. « Oui, c'est injuste, semble-t-il se dire, de mourir aujourd'hui à quelques jours de la libération, mais on meurt fier d'avoir servi la liberté et la paix à venir. » Les premiers vers de la Marseillaise s'élèvent, aussitôt repris par les 30 prisonniers, et ils chantent aussi fort qu'ils le peuvent pour se donner du courage, pour impressionner l'ennemi.
On peut imaginer 30 prisonniers, avec en face d'eux 40 à 50 Allemands, armes aux pieds, et qui vont les exécuter.
Sur un tertre, à gauche de la butte, un officier allemand lève le bras. Il la baisse.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Osons déjà que cela passe vite, osons. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour du rang. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et le morne matin en était différent. Nature.
toi qui criait la France en sabbatin.
Le maquis de Bouscalou
avec Hervé Mollard.
J'espère que cette guerre ne va pas durer.
Il faut se battre pour qu'elle se termine un jour.
Albert était quelqu'un de très connu à la Tour du Pin, qui avait des activités très diverses, éclectiques, puisqu'il était un grand sportif, donc un gymnaste, un footballeur. Il faisait partie également de l'harmonie, donc il était clarinettiste. Il était déjà à son âge, rappelons-le, il avait que 21 ans, contremaître à l'usine de chaussures Clerget à la Tour du Pin. Donc c'était quelqu'un de jeune, mais déjà connu, qui avait une grosse personnalité. Pour en avoir discuté avec ses copains, qui eux ne sont pas partis en résistance. C'était une personne à forte personnalité, reconnue. Et ça n'a étonné personne qu'il ait pris cette option de rejoindre la résistance.
Et depuis, donc, à la Tour du Pin, une école porte son nom, une rue porte son nom, si je crois.
Oui. En 1967... En 1946, la ville de la Tour du Pin a décidé d'honorer la mémoire de tous les résistants morts pour la France, pas seulement Albert, parce qu'il y en a, il y a d'autres Turipinois, et le Turipinois, c'est les gens de la Tour du Pin, et qui ont rejoint d'autres maquis, notamment dans le Vercors, ou en Chartreuse. Et la mairie de la Tour du Pin a décidé d'honorer ces valeureux Turipinois, en baptisant donc des rues, des places à leur nom. Pour Albert, ça a été la place des écoles, une école publique, un grand groupe scolaire. La place des écoles est devenue la place Albert Thévenot en 1946. Et puis plus tard, en 1967, il a été décidé que le groupe scolaire s'appellerait aussi groupe scolaire Albert Thévenot. Depuis de nombreuses années, avec mon épouse, nous venons à la commémoration de cette attaque du 6 mai à Proincou. Proincou étant le hameau le plus près du Bouscalousse. Et puis, naturellement, nous nous sommes liés aux familles qui ont connu ces maquisards, qui les ont aidés. Ils ont donné leur vie pour que nous soyons libres. Et ça me paraît essentiel de pouvoir commémorer ça et de transmettre tout ça aux futures générations. Moi, je suis très fier de faire partie de la famille d'Albert, parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment extraordinaire. Et puis je crois que réciproquement, si lui, il était là, je crois qu'il serait très content qu'on continue son action quelque part, même si on est aujourd'hui un pays en paix, quoi. Mais qu'on continue à commémorer, à faire ce qu'on a communément appelé le devoir de mémoire, quoi. Voilà. Je pense qu'il serait très fier aussi de ce qu'on en fait aujourd'hui. On peut constater chaque année que le 6 mai, à Proincou, qui est un hameau mais vraiment très restreint, qu'il y ait autant de monde pour cette commémoration. C'est toujours assez surprenant de voir qu'il y ait autant de monde qui viennent là pour rendre hommage à ces combattants et avoir simplement une pensée pour eux ce jour-là, pour leur rendre hommage, quoi. Voilà. Pas d'autre mot, je pense.
Je m'appelle donc Cécile Rolsonghi et j'ai vécu les 4 années de l'occupation allemande comme volontaire de la résistance. Moi, quand je vais dans les écoles aussi, que je vais voir les enfants, je leur dis toujours que la liberté, elle est toujours à défendre. Toujours à défendre, toujours. On ne peut pas rester indifférent à tout ce qui se passe. Et puis, si on ne connaît pas un peu son histoire, l'histoire du pays, l'histoire de France, ben, on ne connaît pas grand-chose. Hein. Moi, c'est un peu comme ça que je leur dis. Je me suis dit que la chose qui m'avait le plus marqué, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, que je, c'est ces gens qu'on fusille. Ils sont là, et dans la minute qui suit, alors ça, tout d'un coup, ça m'a retourné. Bon, maintenant, je comprends, mais vous savez, c'est vrai.
Donc le 6 mai 2019, ça sera les 75 ans, et on demande à plein de gens de venir pour redécouvrir peut-être l'histoire de ces jeunes du maquis.
Je pense, oui, que le 6 mai 2019, il y aura autant de monde, voire plus, compte tenu que ce sera le 75e anniversaire.
Merci beaucoup Hervé Mollard. Cette émission sera rediffusée sur Radio Saint-Afrique mercredi 24 avril à 14h et samedi 30 avril à 16h.
Vous trouverez sur la page Dissonance du site internet de Radio Saint-Afrique un lien vous permettant de réécouter cette émission, mais aussi divers liens vous donnant des compléments d'informations.
Cette émission est disponible en téléchargement depuis notre page internet pour l'écouter à votre guise.
Salut
et fraternité.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. on est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.